au cours duquel Ulysse utilise sa ruse avec succès. Septième épisode. Le petit port de Syros sommeillait encore ce matin-là. Les pêcheurs n'étaient pas partis en mer et leur frêle barque dansait mollement sous la caresse d'Hélios, le soleil en train de se lever. Une embarcation arrivée la veille au soir n'attirait pas les regards des premiers passants. Trois hommes étaient à son bord. L'un d'eux, la barbe fournie et le mollet de montagnard, venait de hisser sur son dos un énorme sac. Puis il avait sauté prestement sur le quai. Les deux autres ne tardèrent pas à le suivre. Ils avaient l'allure de braves commerçants venus vendre leurs marchandises au palais du roi Lycomède. Bientôt, les femmes et les filles du roi se bousculèrent dans la grande pièce du palais. C'est que les visiteurs se faisaient rares et les marchands encore plus. Le premier marchand, à la barbe fournie, jeta un coup d'œil circulaire sur l'assemblée des jeunes femmes qui se pressaient autour de lui. Son regard s'arrêta un instant sur l'une d'entre elles, dont les boucles blondes tiraient sur le roux. Mais il poursuivit ses salutations en souriant. Puis d'un geste, il repoussa les femmes, défit son sac et exposa soudain à leurs yeux un monceau de merveilles. Ceintures dorées, bagues et colliers argentés, sandales, robes brodées, voiles de soie. Le roi Lycomède, qui venait d'arriver, s'amusait de voir ses filles se jeter sur la marchandise avec des cris de joie. L'une essayait un bracelet en or, l'autre se drapait dans une étoffe au fil d'argent. Au milieu du sac, parmi les colifichets, se trouvait un poignard finement ciselé. On pouvait en deviner la magnificence au premier coup d'œil, si l'on aimait le maniement des armes. La jeune femme, aux boucles blondes, presque rousses, s'était immédiatement emparée de l'arme. Le marchand barbu, en la voyant manier le couteau, ne put retenir un sourire. Il fit un geste discret à l'un de ses compères, qui brandit une trompette et sonna brusquement la charge. Toutes les femmes effrayées s'enfuirent en courant. Toutes sauf une. Elle s'était dressée en un réflexe militaire et avait bondi le couteau à la main, prête à combattre. Ulysse, car le marchand c'était lui bien sûr, s'approcha alors d'elle et lui posant affectueusement la main sur l'épaule, dit « Achille, c'est bien toi, n'est-ce pas ?» La vue d'une arme précieuse t'attire aussi sûrement que la rose attire l'abeille. J'ai fait sonner la charge qui appelle le soldat à combattre. Tout ton corps a répondu à cet appel. Tu ne peux pas rester plus longtemps caché dans ce harem. Viens avec nous combattre et prendre ta place de chef. On vit alors une femme se détacher du groupe et se jeter dans les bras d'Achille, puis une autre, plus âgée. Toutes deux en l'enveloppèrent de ses bras, de leurs bras aimants. La plus jeune était l'une des filles de Lycomède, avec laquelle le bel Achille avait eu un enfant. L'autre était sa mère, Thétis. « Tu sais pourquoi je t'ai caché ici, mon fils ?» dit-elle. « Tu sais que si tu restes ici, tu finiras tes jours paisiblement. Si tu pars à la guerre, tu te couvriras de gloire à jamais, mais tu mourras sous les murailles de Troie. C'est l'oracle du devin Calchas. » Achille, ému aux larmes, ne savait que répondre. Il regarda Ulysse qui le fixait. Puis son regard s'attarda sur l'autre marchand plus âgé qui se tenait trois pas en arrière. Il reconnut les traits du vieux visage. « Tu es Nestor, n'est-ce pas ?»« Le sage Nestor, roi de Pylos. » Nestor fit un signe de la tête pour acquiescer. « Que me conseilles-tu, ô roi sage, ami des dieux ? La gloire et la mort ou la vie paisible ?» Nestor inspira profondément. Il observa l'assemblée des femmes puis répondit. « Valeureux Achille, tu as été élevé par le centaure Chiron, le plus sage de tous. Je pense qu'il te dirait de suivre ton destin. Tu ne peux pas passer toute ta vie sous un déguisement de femme. Et si ton tempérament t'appelle à prendre les armes auprès de tes vaillants compagnons, écoute-le, même si tu dois en mourir. » Ulysse lança un regard reconnaissant au vieux Nestor. Achille baissa la tête, puis il ôta lentement, un par un, les voiles qui l'enveloppaient. Lorsqu'il eut terminé, il était redevenu ce jeune héros dont on chantait les exploits dans toute la Grèce. En marchant vers le port, Achille paraissait plus grand, plus fort aussi. « Je ne partirai pas sans mon cousin Patrocle, mon inséparable ami !» s'écria-t-il soudain. Ulysse eut un sourire et indiqua le bateau qui les attendait. Sur le pont, Patrocle faisait de grands signes à Achille. Lorsque le bateau s'éloigna des côtes de Syros, Ulysse essaya de ne pas penser à son propre départ. La réussite de sa mission était assombrie par le visage en larmes des deux femmes, mère et amante, qu'Achille quittait. Le visage de Pénélope venait se superposer au leur. Combien de larmes encore cette guerre de Troie vers laquelle il voguait ferait-elle verser ?